Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des conservateurs qui suggèrent le recours à la clause dérogatoire pour l'aide médicale à mourir, des religieuses qui se mobilisent en faveur des prisonnières, du faux débat de la religion, de Ted Cruz qui abandonne la course, de Lucien Bouchard qui explique le défi de la conciliation politique-famille pour les chefs de parti, et en rafale, il sera question, naturellement, des bonnes nouvelles du jour. Débutons par ce texte qui a été publié sur la plateforme du Devoir et qui s'intitule « Des conservateurs suggèrent le recours à la clause dérogatoire ». Tout d'abord, le Devoir cite Kevin Sorensen. Qui est Kevin Sorensen? Il est un député conservateur à la Chambre des communes à Ottawa. Voici ce qu'il dit. Il y avait un groupe de personnes très restreint qui réclamait l'aide à mourir, la plus infime des minorités. Mais la Cour suprême a donné à ces groupes d'intérêts spéciaux ce qu'ils voulaient, a-t-il regretté lors de son intervention en Chambre. Par la suite, le Devoir explique ceci. De manière générale, la plupart des députés conservateurs qui ont pris la parole en Chambre ou autour de la table du Comité de la justice et des droits de la personne, qui étudie C-14, offrent des discours assez hostiles au projet de loi des libéraux. Donc, mesdames et messieurs, ce qu'on nous dit noir sur blanc, c'est que les députés conservateurs offrent un discours assez hostile au projet de loi des libéraux, lequel C-14, et qu'est-ce que C-14? C'est ce projet de loi qui entoure l'euthanasie, ou ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Le Devoir poursuit en disant « Certains d'entre eux, en parlant des conservateurs, ont suggéré au cours des deux derniers jours que le gouvernement devrait invoquer la disposition de dérogation au lieu de légiférer dans ce dossier. » C'est quoi ça, la disposition de dérogation? C'est qu'il y a une clause dérogatoire. La clause dérogatoire, ça veut dire qu'on peut déroger, pour des raisons raisonnables, de la Charte des droits et libertés ou de la Constitution du pays. Normalement, il y a un délai maximal. Donc, ça ne peut pas être vitam aeternam, ça ne peut pas être pour toute la vie. Donc, pour 4 ou 5 ans, on peut déroger. Et donc, ça doit être revoté après 4 ou 5 ans pour être remise en fonction si c'est nécessaire. Et parfois, lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, eh bien, on décide de ne pas reconduire la clause dérogatoire, qu'on appelle aussi la clause non-obstant. Et c'est ce qu'on dit, puisque la Cour suprême a déclaré que c'est inconstitutionnel d'empêcher quelqu'un qui réclame l'aide médicale à mourir, qui réclame l'euthanasie, lorsqu'il est en fin de vie, lorsqu'il est atteint d'une maladie incurable, etc. Alors, ce que les conservateurs disent, eux autres, un instant. OK, on n'a pas le choix de passer une loi comme ça parce que c'est la Cour suprême qui dit que selon nos lois, selon nos règles, selon notre Constitution, on est lié et on doit aller dans cette direction-là. Mais puisque c'est moralement inacceptable, malgré ce que nos lois et notre Constitution affirment, eh bien, on va déroger de cette Constitution-là, la clause dérogatoire, pour permettre à ce que notre société, notre pays, puisse vivre conformément à la moralité à laquelle il doit vivre ou s'adapter. Maintenant, je serais bien surpris que les libéraux aillent dans ce sens-là, et encore moins les néo-démocrates et le Bloc québécois. Et donc, parce que les conservateurs sont en minorité en Chambre, eh bien, on n'aura pas recours à cette clause dérogatoire. Il n'y a pas seulement les conservateurs qui veulent défendre les droits des gens. Ici, les conservateurs veulent défendre le droit des gens qui, dans leur conscience, ne sont pas à l'aise avec l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie. Il y a des religieuses catholiques, qui se mobilisent en faveur des prisonnières. Et c'est encore le Devoir qui nous informe à cet effet. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que l'Association des religieuses pour les droits des femmes, l'ARDF, écrit à son tour au ministère de la Sécurité publique pour protester contre la situation dans laquelle se trouvent les prisonnières de l'établissement de détention Leclerc à Laval. Ce que le Devoir nous rapporte, c'est qu'elle reproche au gouvernement libéral d'avoir opéré un changement aux conséquences concrètes sur le quotidien des détenus. Si les centres de détention ont pour mission de procéder à la réhabilitation et de préparer la réinsertion sociale des personnes qui y purgent des peines, alors les conditions auxquelles sont soumises les prisonnières sont de nature à les détériorer physiquement et psychologiquement, indiquent les religieuses. Et ce qui arrive, c'est que les religieuses se disaient préoccupées par les questions de manque de justice sociale que met en lumière une inquiétante dégradation des conditions de vie des détenus en raison d'une campagne d'austérité. C'est ce que le Devoir nous rapportait. Alors, ces religieuses-là se sont levées pour le droit des détenus, des femmes détenues en milieu carcéral, spécialement dans le centre de détention Leclerc. Et il n'y a pas seulement ces religieuses-là, mais suite à cette sortie-là, eh bien, il y a d'autres personnes qui se sont levées pour, justement, témoigner de leur soutien ou de leur appui à ces religieuses-là. Et ça, c'est intéressant parce que, vous savez, mesdames et messieurs, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour défendre la justice sociale. Même si certains d'entre vous êtes peut-être plus à droite économiquement ou plus à droite socialement, il reste que néanmoins, même si on prône, par exemple, chez ceux qui sont plus à droite ou plus conservateurs, une responsabilité sociale et fiscale, cette responsabilité-là doit s'exercer dans une justice sociale, dans une forme d'équité. Et donc, s'il y a des écarts, s'il y a des abus, eh bien, c'est clair qu'on doit les défendre. Maintenant, c'est dans leurs droits, et c'est tout simplement à titre d'information que je vous présentais des extraits de cet article. Mais on voit qu'il n'y a pas seulement des religieuses qui nous font parler. Il y a toute la question de la religion. Et oui, je vous en avais parlé hier. Nathalie Elgralbi-Lévy nous avait parlé justement la semaine dernière de la religion qui est un faux débat. Elle répliquait à Richard Martineau qui, lui, considérait justement que toute la question des religions qu'on connaît aujourd'hui, les grandes religions, et le pastafarisme, pour lui, c'est toute la même chose, ce sont des pures inventions. Alors, vous savez que Denise Bombardier a répliqué à Richard Martineau, qui, lui, a répliqué à son tour. Mais ensuite, Nathalie Elgralbi-Lévy s'est permise de répliquer elle aussi. Et je l'ai mentionné au passage hier, mais j'aimerais ça lire quelques extraits de son texte puisqu'il y a énormément de bon contenu là-dedans. Alors, son texte a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal et elle nous dit que la religion a certes fait des millions de morts au fil des siècles, mais elle n'a pas le monopole de la barbarie. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les détracteurs de la religion vont dire « Oui, oui, mais il y a eu des tueries, il y a eu des guerres, il y a eu des croisés, puis ça a fait des morts. » Mais il n'y a pas seulement la religion qui a causé des morts. Et elle soulève le point d'une manière vraiment intelligente. Voici ce qu'elle dit. « La politique antireligieuse de Staline et de ses successeurs a fait 60 millions de victimes de 1917 à 1987. » Ça, c'est 70 ans, mesdames et messieurs. L'idéologie communiste de Mao Tse-tung et de Deng Xiaoping a justifié la mort de 75 millions de Chinois de 1949 à 1987. Ça, c'est 38 ans, mesdames et messieurs. Pol Pot a exterminé 26 % de la population cambodgienne. La Corée du Nord a causé la mort de plus de 2 millions de personnes. Quant au régime nazi, il a fait 20 millions de morts. Pourtant, Hitler lui-même définissait le nazisme comme une idéologie laïque basée sur la science. Aujourd'hui, certains suggèrent sérieusement d'accuser les climato-sceptiques de crimes contre l'humanité et de les emprisonner. Toutefois, les actes de violence ont tous un point commun. Ils sont l'œuvre de mégalomanes qui s'arroge le droit d'imposer une idéologie afin d'obtenir et de conserver un pouvoir politique et ou économique. Ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs, parce qu'à la base, ce ne sont pas les textes religieux qui encouragent des gens à la guerre. Certainement pas dans le christianisme. Le Nouveau Testament ne nous encourage pas à la guerre. Il ne nous interdit pas de nous défendre. Il va expliquer, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, que le centurion romain, il porte l'épée. C'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. Il doit y avoir des gens armés qui protègent notre sécurité. Mais il ne demande pas aux disciples de Jésus-Christ de se battre et d'aller tuer. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas aller dans l'armée? Je ne veux pas ouvrir ce débat-là. Ça se discute, ça se défend. Mais si on s'en tient au fait que s'il y a une armée qui protège nos droits et nos libertés, ce n'est pas contre la Bible. Maintenant, ce que la Bible, elle ne demande pas aux chrétiens d'aller tuer au nom de la religion. Elle ne demande pas ça. Elle dit au contraire d'aimer nos ennemis. Elle nous dit même, lorsqu'on reçoit du mal, de faire du bien. Et donc, c'est pour ça que, mesdames et messieurs, la vraie religion authentique, celle qui émane d'une relation personnelle avec Dieu au travers la personne de Jésus-Christ, en mettant notre foi en sa mort pour nous et sa résurrection, en étant instruit des saintes Écritures, eh bien, ça ne peut pas nous amener à vouloir tuer des gens. Il y a des gens qui ont des valeurs, qui ont des convictions religieuses, qui sont impliqués en politique. Et grâce à eux, nos libertés sont protégées. Il y avait un candidat du nom de Ted Cruz aux États-Unis qui se lançait à la course du Parti républicain, espérant être un jour président des États-Unis. Sa colistière, eh bien, elle aussi était une chrétienne évangélique, comme lui, comme Ted Cruz. Et Ted Cruz, voyant qu'il n'avait presque plus d'espoir de vaincre Donald Trump, s'est retiré de la course. C'est dommage parce que j'aurais aimé qu'un chrétien évangélique puisse défendre nos valeurs chez nos voisins du Sud. Mais que voulez-vous? Ainsi va les vies, on n'a pas de contrôle là-dessus et de plus, ce n'est pas notre pays. Mais je trouve ça admirable que des gens de foi consacrent leur vie au mieux-être des citoyens de bonne foi. Et il y a un homme qui n'est pas un chrétien évangélique, mais qui a fait sa marque au Québec, Lucien Bouchard, qui lui aussi a été impliqué en politique. Et il a commenté le départ de Pierre-Carl Péladeau et sous un angle assez important, celui de quitter la politique pour le bien de sa famille. Lucien Bouchard l'a fait aussi, pour ces mêmes raisons. Pas uniquement pour ces raisons-là, mais en grande partie pour ces raisons-là. Et il expliquait, sur les ondes de Radio-Canada, son témoignage et comment il comprenait les motifs de Pierre-Carl Péladeau. Il expliquait combien c'était difficile pour un chef de parti de concilier politique et famille. Et je vous invite à visionner cette entrevue que Lucien Bouchard a accordée à Patrice Roy sur les ondes de Radio-Canada et c'est disponible sur la plateforme ericlantier.net. En terminant, les bonnes nouvelles du jour. Les Pays-Bas veulent interdire la vente de voitures non électriques. Et vous verrez sur la plateforme de la presse quelles sont les raisons. Donc, pour eux, ils sont en train de voter et de discuter sur cette possibilité-là. Et puisque le temps file, eh bien, je continue avec les autres bonnes nouvelles du jour. Le colloque international en éducation et sommet de l'iPad et du numérique en éducation, 5 et 6 mai 2016 à Montréal. Et donc, on va parler justement de l'impact ou de l'implication du numérique en éducation. Et ça, c'est intéressant parce que je crois que la technologie est au rendez-vous pour nous aider pédagogiquement. Et je crois également que dans nos églises, on a besoin de la technologie pour diffuser le message, pour expliquer le message et pour illustrer le message. Le français, maintenant, en terminant, sera dorénavant visible partout au Québec Eh bien, ce qu'on demande aux entreprises d'ici 3 ans, c'est d'exposer autour de leur nom, qui est anglais, par exemple le nom de commerce qui est anglais, comme Canadian Tire ou Second Cup, il doit y avoir sur la façade de l'immeuble une expression, un mot, une phrase visible en français. Et donc, c'est pour qu'on puisse valoriser le français sans être obligé de franciser le nom qui est reconnu, par exemple, ailleurs sur la planète. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous encourage à participer à notre levée de fonds. Notre objectif est de 25 000 $. Merci de nous aider à diffuser pour la vie. Et puisque le temps est écoulé, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!